Petite mise à jour sur le tournoi des maîtres. D'abord, je vous dis que Tiger Woods a terminé sa quatrième ronde. Aujourd'hui, il a joué moins 3, 69 pour sa quatrième ronde. Donc, au cumulatif des quatre rondes, ça le place à plus 1 en 32e position. Donc, une belle fin de tournoi des maîtres pour Tiger Woods. Et après deux trous, les meneurs se sont rapprochés parce que Patrick Reed a réalisé une normale au deuxième trou alors que McIlroy a réussi un birdie. Donc, l'avance de Reed est maintenant de un coup sur McIlroy. Moins 13 pour Reed, moins 12 pour McIlroy. John Rahm est à moins 10 et Ricky Fowler à moins 9. Alors, ça va demeurer serré, j'ai bien l'impression, jusqu'à la toute fin. Et je vous mentionne également qu'on fera un petit bloc particulier sur la tragédie qui a frappé les Broncos de Humboldt en Saskatchewan vendredi. J'aurai l'occasion de m'entretenir un petit peu plus tard dans l'émission avec Daniel Chicoine, qui a vécu le même genre de tragédie avec les Castors de Sherbrooke, qui avaient fait un décès en 1974. Les Castors s'en allaient jouer à Chicoutimi contre les Saguenayens. Donc, on va discuter de la chose avec Daniel Chicoine, un ex des Castors de Sherbrooke. Pour l'instant, on va parler de la saison du Canadien et de quelques autres points ailleurs dans la Ligue nationale, pas trop loin de Montréal, peut-être à Ottawa. Il y a des petites affaires qui m'intriguent de ce côté-là. Avec Benoît Brunet qu'on retrouve au bout du fil. Salut Benoît!
Salut, comment ça va mon Pierre?
Ça va très bien. La saison de misère du Canadien est enfin terminée. Qu'est-ce qu'on doit retenir de bon puis qu'est-ce qu'on doit retenir de mauvais chez le Canadien? Il y en a-tu plus d'un bord que de l'autre d'après toi?
Les points positifs, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a la saison de Brendan Gallagher pour moi qui est vraiment incroyable, meilleur pointeur.
Est-ce que c'est pas un peu artificiel du fait qu'il y a eu tellement de blessés? Ça a donné plus de temps de glace de qualité, exemple, sur les avantages numériques à Gallagher qu'il n'aurait pas eu normalement? Je veux rien lui enlever, là.
Non, je suis d'accord avec toi, mais moi, je trouvais qu'en début de saison, on plaçait Andrew Shaw dans cette position-là. Puis ouais. Je pense que Gallagher a une meilleure main, puis il a une meilleure touche autour du filet qu'Andrew Shaw. Mm-hmm. Je sais pas si c'est le fait qu'il avait gagné à Chicago, puis tout ça, puis le prix qu'on l'a amené ici, deux choix de deuxième ronde, puis des fois, l'entraîneur veut lui donner un peu plus de chance. Moi, je pense que c'est Gallagher qui doit jouer ce rôle-là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, s'il y en a un qui n'a pas abandonné match après match après match, là, c'est
exact.
Lui.
Exact.
Deuxième point positif pour moi, c'est Paul Byron. Mm-hmm. Qui a gagné le trophée à Jacques Beauchamp.
Ouais.
Lui aussi, c'est encore exceptionnel. Une deuxième saison de 20 buts consécutifs. C'est bien. Et la question que je me pose avec ces deux gars-là, puis c'est un peu l'interrogation que tu as mentionné un peu plus tôt. Dans une bonne formation, c'est quoi les chances que ces gars-là atteignent les mêmes plateaux qu'ils ont atteints au cours des dernières saisons?
Ouais.
Fait que ça, c'est sûr que Gallagher, dans une bonne formation, il est peut-être pas dans ton top 6, puis il joue pas en avantage numérique. Mm-hmm. C'est peut-être la même chose avec Paul Byron. C'est un gars peut-être de troisième, quatrième trio avec les Penguins de Pittsburgh, s'il joue sur le premier trio. Mm-hmm. Mais, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ils ont fait un spectacle, tu sais, digne de mention, moi, je trouve, de la façon qu'ils se sont comportés. Troisième point positif, Pierre, c'est Delorier. Delorier s'est amené ici, on voulait plus de lui à Buffalo, ça allait pas bien, il attendait chez eux, transaction mineure. Redmond s'en va à Buffalo, il commence avec le Rocket de Laval, puis finalement, il signe un contrat de 2 ans, puis il marque 2 buts contre les Red Wings de Détroit l'autre soir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que ça aussi, c'est un point positif. Puis le jeune Mété, même si on ne l'a pas vu en fin de saison,
ouais.
Pour moi, que ce gars-là ait débuté la saison avec le Canadien, c'est assez exceptionnel. Tout ça à cause des mauvaises décisions probablement qu'on a prises du côté de l'état-major du Canadien, parce que je pense pas qu'il était dans les plans, mais il nous a démontré que c'est un gars qui va tenir son bout dans la Ligue nationale. J'ai hâte de le voir au camp d'entraînement l'année prochaine.
Hier, après le match, Mario Tremblay parlait de l'aspect fierté qu'il y a peut-être beaucoup moins maintenant dans le hockey d'aujourd'hui que dans son temps, puis dans ton temps aussi.
Ouais.
C'est devenu plus une business qu'une fierté. Les joueurs sont-tu bien shakés de pas avoir fait les séries, d'après toi?
Non. Non.
Alors que ça aurait été le cas il y a 20 ans, c'est une catastrophe il y a 20 ans de ne pas faire les séries.
Ouais. On avait tellement peur de perdre nos jobs en plus de ça.
Ouais.
On avait vraiment peur de perdre nos jobs. On avait peur qu'un jeune arrive qui ne pouvait pas de notre place. Il y avait un stress. C'est sûr que ça a changé aujourd'hui. Moi, ce que j'entends, c'est que les joueurs, aujourd'hui, posent beaucoup de questions. Vont défier souvent l'autorité. Ils vont poser des questions aux entraîneurs, que ce soit aux assistants ou les gars en chef. Pourquoi on fait ça? Why? Tu sais? C'est ça. Nous autres, on n'avait pas ce luxe-là. On avait le luxe quand on était devenus des bons vétérans, que ce soit junior, Ligue américaine, même Ligue nationale, de discuter avec l'entraîneur. Mais on savait que c'est l'entraîneur qui prenait la décision finale à la fin. Ça, c'est sûr que tu as un luxe à un certain moment, mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il pose beaucoup de questions. Puis, il y en a gros qui se disent, bon, si ça ne fait pas ici, ça fera ailleurs.
Oui, c'est sûr, parce qu'avec 31 équipes maintenant, c'est plus facile de se trouver de l'ouvrage. Oui, effectivement.
L'Europe, la KHL, ouais, les gars, ils ne sont pas trop nerveux. Puis l'autre chose, c'est que dans nos années, je sais que ça a changé beaucoup, à moins d'être un exceptionnel, tu sais, des gars de 18-19 ans qui rentraient dans la Ligue dans les années même 70, 80, 90, c'était des exceptionnels. C'était des Mario Lemieux, Vincent a commencé très jeune, Vincent Danfous, je me souviens que Shane Corson à Montréal, Éric Desjardins qui a eu une grande carrière, a commencé jeune. Mais la plupart du temps, nous, là, on allait passer un peu de temps dans les mineurs. Puis ça, je pense que ça te formait aussi en tant que joueur de hockey, puis en tant que personne. Parce que faire du boss, là, quand on a des gars que faire du boss dans les Américaines, là, c'est pas mal plus difficile que de t'asseoir dans un Olysée avec des sushis puis des crevettes, comme mon ami Gilbert Delorme dirait. non, mais c'est ça pareil.
Mais oui.
Le poulet, là, dans une boîte, là, quand tu sors d'Halifax ou de Moncton ou de Cap-Breton dans mes années à moi, puis là, tu fais 5-6 heures de boss puis tu joues le lendemain. Pis quand tu arrives le dimanche à Sherbrooke, le dimanche matin, ben c'est pas les trainers qui sortent ta poche, là. Tu prends ta poche, mais je me souviens, c'était Jean-Amel, notre entraîneur. Pis c'est toi qui l'amènes dans le vestiaire, puis t'accroches ton stock, puis après ça, t'embarques dans ton auto, tu t'en vas à la maison, puis tu joues un match à 4 heures l'après-midi. Ça forme vraiment la maturité des joueurs. Puis Gallagher l'a vécu. J'ai un gars, je pense à un gars comme Galchenyuk, qui n'a pas vécu ça, lui, la Ligue américaine. Tu sais pas c'est quoi, là?
Non. Il y en a un qui l'a vécu, c'est Charles Hudon pendant 3 saisons. Est-ce que tu le places dans les côtés positifs de cette saison-là?
Oui, c'est vrai. Un bon point, Pierre, je l'avais oublié, là, oui. Puis au niveau de l'attaque, je pense qu'il y a eu des petits ratés en début de saison, mais il y avait des chances de marquer.
Ouais.
Fait que, mais c'est vraiment positif parce que lui aussi, là, il l'a fait là, ces années-là dans les Américaines, le 3 ans là, pour s'assurer d'arriver dans la Ligue nationale. Il a mangé son pain noir puis il est rendu. Puis je pense qu'offensivement, l'an prochain, il va être plus solide. Il y a eu des petites blessures qui l'ont ralenti en fin de saison. Mais tranquillement, pas vite, j'ai vu un gars qui est capable de compétitionner, capable de gagner des bagarres à un contre un en fond de territoire. Il a pas peur d'aller dans la circulation. Il a pas peur de se défendre lui-même sur la glace. Puis je suis convaincu qu'avec une deuxième saison, là, ça sera pas la même chose qu'un gars comme Lekkonen qui est arrivé l'année passée, 18 buts. Puis là, cette année, ça a été plus difficile. La gang la deuxième année, je la vois pas avec Charles Hudon. Je pense que ce gars-là va aider le Canadien. Est-ce qu'il peut jouer dans le top 6? Ça, je suis pas convaincu. Moi, je le vois plus sur un troisième trio. Il y en a qui le voient plus sur un quatrième trio. Moi, avec le talent offensif, ce que là, il peut mettre des points au tableau, là, je le vois sur un troisième trio avec le Canadien l'année prochaine.
Mais ça peut être un bon dépanneur, peu importe où tu en as besoin.
Au centre, à l'aile, à gauche, quatrième trio peut-être aussi, mais oui, je suis d'accord avec ça. Ça va donner peut-être un Paul Byron. C'est différent. Je pense que son sens du hockey est vraiment différent que celui de Paul Byron.
On est tombé souvent sur la tomate de Jonathan Drouin au cours de la dernière saison. Il a quand même terminé la saison avec 9 points à ses 9 derniers matchs. Qu'est-ce qui a fait différent?
Tu parles de?
De Jonathan Drouin.
En même temps, je t'ai perdu un peu.
Jonathan Drouin a connu une saison assez ordinaire, mais il a quand même terminé en force avec 9 points dans ses 9 derniers matchs.
Je pense que la grosse différence avec Jonathan, c'est la façon que s'est comporté. C'est pas le talent, là, c'est son attitude. C'est son attitude, moi, je trouve, qui a changé. Je trouvais qu'avant, il abandonnait facilement. Ça, c'est peut-être la frustration de ne pas produire à un certain moment dans la saison, puis surtout au début de la saison. Là, je le regardais aller, puis je le voyais souvent regarder dans les airs, se lever les épaules, pas travailler, pas faire son repli défensif s'il faisait une mauvaise passe. Puis j'ai senti qu'avec Gallagher puis Byron, des gars qui travaillent, mais il a suivi cette l'attitude de travailler à chaque présence.
OK. Parlons un peu d'Alain Vigneault qui a été congédié après le dernier match de son équipe. Hier, Vigneault a quand même mené les Rangers à une finale de la Coupe Stanley en 2014. Il avait perdu contre les Kings. Il avait déjà mené les Canucks de Vancouver aussi à la finale de la Coupe Stanley en 2008. Ça c'est la dernière fois qu'il a manqué les séries avant cette année. Mais il avait aussi dirigé les Canucks en finale contre les Bruins, si ma mémoire est bonne, 2011, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est injuste dans le contexte? Parce que les Rangers, il y a une couple de mois, ils ont annoncé qu'ils reconstruisaient tout. Vigneault était pogné avec les restants. Là.
Ah ben oui, c'est sûr que... Convaincu probablement que le congédiement, lui, là, quand le DG puis Glenn Sater et ces gars-là, l'état-major des Rangers l'ont rencontré, qu'il n'était pas d'accord avec ça, lui. Tu sais, tu veux pas voir ça. Tu veux pas voir ton DG faire une vente de feu et dire, bon, mais là, tu vas continuer à travailler, puis c'est avec toi qu'on va rebâtir, c'est peut-être avec toi qu'on veut gagner. Mm-hmm. Et je pense que le processus, puis on le voit présentement, là, ça a été une saison très difficile depuis qu'ils ont fait ces annonces-là du côté des Rangers. Ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, puis ils ont bougé. Je suis pas convaincu qu'Alain voulait rester là non plus en tant qu'entraîneur puis attendre 4-5 ans pour voir les Rangers peut-être redevenir une bonne équipe. Ça, ouais. C'est rien de garanti là-dedans. Puis je pense qu'Alain, c'est un gars d'expérience. Moi, j'ai eu de la chance de le côtoyer un peu, là, que ce soit avec les Canucks ou avec les Rangers quand je voyageais. Moi, je suis convaincu que c'est un gars qui va se retrouver une job assez rapidement.
Oui, parce qu'il y en a d'autres qui vont lever les feuilles, ça c'est bien certain. Est-ce qu'on pourrait le revoir à Ottawa? Il a déjà été à Ottawa.
Ça se peut.
Parce qu'on s'entend que Guy Boucher est assis sur un siège éjectable, là. Malheureusement.
Moi, je pense que ça va dépendre de la rencontre que Dorion va avoir avec ses joueurs. Je pense que c'est peut-être ça qui va faire la différence du côté d'Ottawa. Mm-hmm. Parce que s'il y a des joueurs qui se disent déjà, puis tu sais, sa réputation à Guy, je trouve que c'est un passionné, peut-être trop des fois, jusqu'au point où...
Trop intense.
Peut-être trop intense, peut-être que ton scénaire trop rapidement à ses joueurs, là. Mais tu sais, ouais. Moi, pour avoir voyagé aussi, puis de l'avoir côtoyé, là, je me suis assis dans son bureau peut-être deux, trois reprises là, quand je faisais la couleur à RDS. Puis, mm-hmm. c'est un gars qui aime ça parler d'hockey. Pour moi, c'était intéressant, mais c'est des fois trop intense avec les joueurs là, dans un marathon de 82 matchs. Là. Des fois, ça te rattrape, mais j'aimerais ça qu'il y ait une autre chance. C'est un gars qu'il faut qu'il prouve absolument, peu importe que ce soit au sénateur ou aux autres dirigeants de la Ligue nationale, qu'il est capable de diriger, là, pas juste un an, deux ans.
Ben, c'est ça. Il risque d'avoir une étiquette accrochée après lui parce que la première année à Tampa Bay, il a perdu en finale d'association.
Ouais.
L'année d'après, il a pas fait les séries. Exactement le même scénario s'est reproduit à Ottawa. À un moment donné, tu finis par avoir une étiquette. Là.
Si c'est ça là, qui se passe, si jamais ça arrive à Ottawa, je pense que ça va être difficile pour lui de se retrouver un job dans la Ligue nationale.
Ouais. Plus haut que ça, à Ottawa, Eugene Melnyk a été la cible de bien des critiques. Il y avait même des grands panneaux publicitaires pour exiger son départ comme propriétaire des sénateurs. Il a réagi en disant qu'il allait rencontrer des partisans de l'équipe dans des genres de rencontres, conférences. Pierre Dorion a, lui, discuté avec des détenteurs de billets de saison par des appels conférences. Quand est-ce qu'on va voir ça à Montréal?
Je sais pas. C'est ce qui va être intéressant à suivre là, au cours de demain. Là. Je pense que je viens de recevoir un communiqué là, que les dirigeants du Canadien vont parler en fin d'après-midi demain.
Mm-hmm.
Donc, j'ai hâte de voir ce que Jeff Molson et Marc Bergevin vont avoir à nous dire. Il y a plein de choses ça a fait défaut là, à partir du camp d'entraînement. T'sais, l'arrivée de Claude l'an passé, on était excités, puis un changement d'entraîneur, puis là tu te dis, bon, mais le noyau est quand même pas si mal. Ça, c'est tellement parti tout croche le début de la saison, puis les joueurs qu'on a décidé de pas ramener en fait en sorte que ce club-là était peut-être pas aussi bon que l'évaluation que les dirigeants avaient fait de l'équipe. Puis moi, je me souviens que quand Marc nous a dit au tournoi de golf que sa défensive était meilleure, puis on m'a posé la question RDS la première fois, je dis, ben, je vais attendre peut-être à mi-novembre pour vous donner une réponse un peu plus franche. J'ai hâte de voir jouer ces gars-là, mais juste là, les regarder sur papier, je suis pas convaincu. Mm-hmm. Fait que c'est ça, je pense, qui a dérangé pas mal les partisans, puis les performances de cette équipe-là où l'effort n'était pas toujours au rendez-vous. Puis là, après ça, quand tu dis l'effort n'est pas toujours au rendez-vous, mais là, faut que tu regardes vers l'entraîneur.
Ouais.
Et là, écoute, moi, Claude Julien, je l'ai côtoyé. Là. Claude Julien, c'est un entraîneur de carrière qui a toujours tiré le maximum de ses joueurs. Tu sais que ça a mal fini peut-être à Boston, mais quand ça fait 10 ans que t'es dans la même organisation, là, c'est pas la même chose que ce qu'on vit présentement à Montréal. Fait que tout ça, là, tu sais, t'as le fait que le club a pas toujours travaillé, la mauvaise évaluation des joueurs, les partisans, moi, écoute, que j'ai croisé au fil des... Quoi, Pierre, des deux derniers mois, je veux pas aller trop loin, là, qui mm-hmm. parlent même plus de hockey, là. Tu sais, quand je vois des dépanneur, là, puis je rentre, puis je ressors de là, puis personne ne m'a parlé de hockey, c'est pas normal.
Ouais, tu te fais parler de l'impact?
Je me suis fait pas mal plus parler du Master en fin de semaine.
Oui,
Que du Canadien. Personne ne m'a parlé du match d'hier contre les Leafs de Toronto. Je suis allé dans l'aréna après ce matin aller voir un match de hockey.
Ah, oui.
Des gens de ça, là. Personne ne m'a parlé du Canadien. Personne.
Non, puis c'est normal.
C'est ça l'indifférence. Mais ouais, mais ça, c'est un jeu dangereux pour Jeff Molson puis le Canadien.
Oui, ben oui, mais il devrait exactement être informé de ça parce que là, il y a un désintérêt de la part des amateurs. Il faut qu'il garde le contact plus direct que par la voie de communiqué ou des articles d'un journaux ou des affaires à radio ou à TV. Il faut qu'il y ait un contact plus direct puis qu'il se sente concerné, pas même plus que les politiciens quand ils disent ah oui, je suis concerné. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de relations publiques qui se fasse de façon plus directe entre la haute direction et le public parce que ça risque de coûter cher aux Canadiens.
Tu as absolument raison. Puis, tu sais, peu importe ce que les joueurs vont nous dire demain, ça, tu sais, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse pas vraiment.
Ben non, ça va être la même cassette que d'habitude, là.
Tu sais, c'est vraiment Jeff Molson et Bergevin que j'ai hâte d'entendre demain. Mm-hmm. Puis, tu sais, je veux pas entendre parler que Tampa a fait les séries, puis Stamco s'était blessé. Puis, si Carey avait eu une bonne saison, puis il avait pas été blessé deux fois, qu'on aurait participé aux séries, là. C'est pas ça le problème du Canadien. C'est plus profond que ça, hein.
Il n'y a pas juste le Canadien qui a eu des blessés cette année.
Non, c'est plus profond que ça, là. Oui, c'est au niveau de l'évaluation de talent, que ce soit les jeunes avec le Rocket de Laval, les entraîneurs, tout le monde, là, le groupe qui est autour de Marc Bergevin, c'est ça que je veux entendre. Est-ce que tout le monde fait leur travail adéquatement? Puis s'ils le font pas, ben c'est à Marc puis à Jeff Molson de prendre les décisions là qui vont faire en sorte qu'on va redevenir une organisation de premier plan. Puis c'est dans le fond, c'est le discours de demain, pour moi, il est important parce que c'est ça qui va peut-être rassurer ou donner un peu d'espoir aux partisans. C'est les partisans qui sont importants. Là. C'est un peu comme ce que, quand je te disais, là, quand Carey parle aux médias, là, j'aimerais ça que des fois, ses réponses soient un peu plus longues. Là, pas juste quand il est de bonne humeur, parce que il parle aux médias, mais quand tu passes par les médias, tu parles à qui? Tu parles aux partisans.
Ouais, les joueurs l'oublient, ça, des fois.
Oui. Ben, même moi, j'ai déjà oublié, parce qu'à un moment donné, t'en fais tellement d'entrevues que tu l'oublies. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on est là, nous autres, pour leur rappeler, Pierre.
OK. Ben, Benoît, merci beaucoup. Puis ça a été bien le fun durant toute la saison, mais reste pas loin de ton téléphone. Ça se peut bien gros qu'on t'appelle pour parler des matchs des séries à partir de dimanche prochain.
Il n'y a pas de problème, je vais être prêt.
Salut, bye.
Merci, bye-bye.
Benoît Brunet, avec qui on jase de hockey tous les dimanches aux Amateurs de sport. Puis vous l'entendez également dans les autres émissions des Amateurs de sport à l'antenne du réseau Cogeco. 15h38, on fait une courte pause. On va parler de boxe tout de suite après.